Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette table ronde sur le sujet du traitement de l'histoire par le jeu vidéo, mais également par le jeu de rôle. Donc avec nous pour en discuter, Sybille Marchetto, qui est écrivaine et présidente de la FFJDR, donc la Fédération Française de Jeux de Rôle. Alain Damasio, qu'on ne présente plus vu qu'il en est rendu à sa 47e conf des Utopiales. Et Jean-Christophe Bailly, qui est chercheur en intelligence artificielle et qui travaille depuis sur un monde virtuel, donc qui a monté une société qui s'appelle Nova Quark et qui développe un univers de type MMO spatial, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Le thème initial de cette conférence, vous le savez sans doute peut-être, ou vous l'avez peut-être deviné en le lisant, a été a priori défini sur le petit battage médiatique qu'il y a eu lorsque, notamment, Monsieur Mélenchon s'est pris à discuter du jeu vidéo dans le cadre de la sortie d'Assassin's Creed Unity, donc un des derniers volets de la série Assassin's Creed, qui présente comme contexte la Révolution française. Et donc il s'est notamment dressé contre, en tout cas il a fortement critiqué la façon dont la Révolution française était présentée. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a fait cette critique notamment à la vue uniquement du trailer du jeu, qui avait été fait par un réalisateur américain. Et donc voilà. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que, et on va commencer par ça, quand le jeu vidéo ou jeu de rôle s'approche de quelque chose, d'un sujet sérieux, donc l'histoire, du coup, on se retrouve avec effectivement potentiellement des gens qui, de l'extérieur en tout cas, peuvent considérer qu'il y a une sorte d'attaque à l'histoire. Alors peut-être Sybille en premier sur le, parce que le jeu vidéo finalement c'est toujours attaché à l'histoire, mais avait jamais rencontré une telle levée de bouclier. Est-ce que le jeu de rôle, dans l'histoire du jeu de rôle, il y a eu ce genre de ou est-ce que tu as connaissance de jeux de rôle historiques, puisque les jeux de rôle également s'appuient beaucoup en grande partie sur l'histoire. Est-ce que tu as du coup une réflexion là-dessus?
Bon, ça marche là, ouais. Donc déjà c'est différent puisque le jeu de rôle ayant un faible impact économique, Jean-Luc Mélenchon ne va pas parler du jeu de rôle à la télé. Nous, ça nous arrangerait, mais ça ne va pas se produire. Donc, dès qu'il y a de l'argent, la façon dont on traite l'histoire devient brusquement beaucoup plus important. Mais après, clairement, jeux vidéo, jeux de rôle, on est quand même dans les mêmes univers au niveau de la conception, de l'imaginaire. Et on va dire rapidement ce qu'il a dit, c'est crétin. Je veux dire, on est tous des créateurs dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, dans la littérature. On se sert de l'histoire comme un matériau, puisque c'est un matériau comme les autres, comme les choses qu'on trouve autour de nous, comme la technologie. Et à partir du moment où on l'intègre dans une œuvre de fiction, clairement, eh ben on en fait une fiction. Donc critiquer une œuvre de fiction d'être une fiction, déjà, ça prouve un inintérêt pour l'art qui est assez navrant. Voilà.
Et justement, est-ce que... Alors, donc tu es écrivaine, Alain a aussi écrit, la littérature a toujours fait ça également. Utiliser l'histoire comme support, comme tu le dis, de narration et d'imagination. Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça est-ce que ça a toujours été compris et pourquoi, à votre sens, ça a toujours été compris? Parce que dans le cas du jeu de rôle, je veux bien qu'effectivement le manque d'impact médiatique du jeu de rôle soit une très très bonne raison pour lesquelles personne ne s'y intéresse et que ça ne soulève pas les foules quand un jeu de rôle traite tel ou tel sujet sérieux a priori et en fait une fiction. Mais est-ce que dans la littérature on a cette même tension potentielle entre les sujets choisis et leur restitution?
Je pense qu'il y a pour la littérature un respect qui manque actuellement pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo est un art, mais un art récent. Donc des hommes politiques ne vont pas se permettre d'attaquer un art qui est très ancien. Donc ils profitent, on va dire, de la jeunesse de cet art-là. Je pense que c'est vraiment juste une question de structure de l'art attaqué. Hein.
Je ne sais pas, je ne suis pas certain au sens où... moi, je suis fort partiellement d'accord avec ce que tu dis vis-à-vis d'Assassin's Creed, au sens où... à mon sens, une grosse partie de la crédibilité médiatique des jeux d'Ubisoft là-dessus était liée à la véracité historique, était liée en tout cas à un point d'appui historique très, 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 très sérieux, très puissant et qui vrai, est impressionnant sur Florence, sur Venise, etc., sur les choix qu'ils ont fait à la Renaissance. Là, oui, ils ont pris des licences, oui, ils se sont éloignés, mais ils continuent à se revendiquer de cette véracité. Donc moi, je sais pas, dans le discours en tout cas véhiculé vers le public, je trouve que c'est un argument de vente, d'être très proche, d'être très fidèle, d'avoir des recherches, presque d'avoir un jeu éducatif quand tu les écoutes, quoi. Et au final, bon, ils font quand même n'importe quoi historiquement. Donc moi, je trouve que c'est un peu, voilà, c'est quand même un peu critiquable par rapport à ça, moi, il me semble, mais... Je suis pas un gros spécialiste de ça, quoi. Et en fait, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, non, mais sérieusement, c'est-à-dire que nous, en science-fiction, ce qui nous intéresse, c'est de travailler effectivement sciemment et complètement sur l'Uchronie, ou de travailler sur le futur, sur un matériau qui est délibérément imaginaire. Donc, la véracité historique, pour moi, n'est pas intéressante. Mais par contre, quand tu t'en revendiques au plan marketing, ça m'agace un peu si c'est totalement perverti, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec le rapport à la science, notamment dans la science-fiction, que ce soit en cinéma ou en littérature, où les gens vont avoir tendance, quand une œuvre s'attaque à la science quelque part, en essayant de l'utiliser, c'est ce que fait la science-fiction, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce même effet de critique qui arrive parce que la science est soit mal représentée, soit pas utilisée pas présentée par des spécialistes, on a vu la conférence sur est-ce que Interstellar est un film scientifiquement réaliste, est-ce que c'est pas un peu le même phénomène que cette relation avec l'histoire?
Bonne question. Non, moi, je pense que dans la littérature de science-fiction, il y a des termes précis pour désigner ça. C'est art science, où on va explicitement dire, voilà, on prend comme point de départ l'idée qu'on va être très réaliste. Et puis quand il n'y a pas le label art science, on comprend aussi que voilà, les lasers vont faire du bruit dans l'espace, etc., qu'on les voit et tout ça. Et on l'accepte. Enfin voilà, je sais pas. Je suis un peu d'accord avec toi, Alain. Je suis pas sûr que ce soit très critique comme question très très important. Alors la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a des gens qui lisant un livre ou voyant un film ou jouant à un jeu vidéo qui s'est réclamé d'une certaine véracité historique vont éteindre tout esprit critique et prendre ça comme un cours littéral et ensuite voilà. Je sais pas si c'est pas un peu prendre aussi les gens pour des idiots de penser ça. Assassin's Creed, je pense que ce qu'ils ont. Alors, moi, j'ai pas suivi en détail ce qui a été dit sur ça, mais ce qu'on peut sans doute leur accorder, c'est qu'il y a une certaine véracité historique sur les bâtiments, la construction, les lieux. Je sais pas s'ils vont au-delà de ça. Hein, et ensuite, voilà, il y a des personnages qui vivent des situations extraordinaires, extra-historiques, très certainement. Voilà. Je sais pas si c'est essentiel, enfin. Je pense qu'il s'est trompé là, ou alors qu'il a, enfin, pas une Mélenchon, qu'il a utilisé un tremplin pour qu'on parle de lui, comme il aurait pu dire n'importe quoi. Enfin bon, je sais pas, mais c'est délibéré ou pas, mais c'est pas très important, je pense.
Et alors du coup, effectivement, parce qu'on n'est pas obligé de traiter uniquement cet épiphénomène sur toute la durée de la discussion, mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Comment alors que ce soit le jeu vidéo, le jeu de rôle ou la littérature va utiliser l'histoire avec un grand H pour nous raconter des choses, pour nous faire vivre des choses, ça dépend du média. Est-ce que peut-être vous pouvez dans vos différents secteurs, donc que ce soit le jeu de rôle, l'écriture ou effectivement le jeu vidéo avec une conception complète d'univers, comment vous vous appuyez sur l'histoire? Est-ce que c'est juste par imprégnation de ce que vous avez, ou est-ce que vous allez rechercher des choses précises dans l'histoire pour travailler ce que vous dites, ce que vous racontez après, quoi?
Je dirais déjà que chaque domaine de recherche humain va nourrir la fiction. Donc ça va être l'histoire, ça va être les sciences. On est sur un festival de science-fiction. Oui. Ça va être la sociologie, ça va être... Toutes les sciences, quelles qu'elles soient, nourrissent toutes les œuvres de fiction. Donc après, chaque auteur, chaque écrivain, chaque créateur va être plus ou moins inspiré, plus ou moins baigné, plus ou moins passionné par un domaine ou un autre. Donc l'histoire, comme la science, est un domaine de recherche de l'humain et les créateurs sont nourris par ces recherches, donc plus ou moins. Mais on a tous été à l'école, on a tous écouté les cours d'histoire. Donc déjà, naturellement, si on va créer un monde imaginaire, on va reprendre des sociétés possibles qu'on a vues, alors je vais dire des bêtises, mais en Égypte, sous la royauté, tout ça, on va forcément reprendre des sociétés qui ont quand même été qui ont existé avant nous. Donc je crois que c'est la base déjà du travail de n'importe qui.
Bon, en fait, non, mais moi, je suis vraiment l'auteur hors sol là-dessus. C'est-à-dire que j'ai détesté l'histoire à l'école, j'ai absolument rien retenu. Je ne lis pas de livres d'histoire, je ne m'intéresse pas à l'histoire, il faut reconnaître. Je pars vraiment du présent, je pars de l'état et de la lecture de l'époque. Et après, effectivement, j'anticipe, j'extrapole, j'essaie de déployer. Mais j'ai vraiment, je crois que j'ai aucune nouvelle, aucun roman qui a une souche historique ou qui s'appuie explicitement sur quelque chose d'historique. Après, comme tout le monde, je métabolise des matériaux. Il y a des choses, effectivement, que j'ai acquises qui certainement ressortent. Mais c'est pas du tout une démarche explicite. J'ai toujours eu le sentiment que s'appuyer sur l'histoire me tirerait vers le... C'est absurde, hein, d'ailleurs, ce que je vais dire, mais me tirerait vers le bas ou me plomberait. En tout cas, moi, ça n'a jamais été moteur, ça m'a jamais porté. Et j'ai toujours préféré me jeter vers l'imaginaire, me jeter vers un espace que je considérais comme totalement libre et pas pollué justement de références vers le passé, quoi. Donc j'ai un côté très très existentialiste, très hors sol par rapport à ça. J'ai pas de recours à l'histoire du tout dans ce que je fais, quoi.
Et alors toi, Jean-Christophe,
si je veux reconnecter avec ce qu'on fait chez Nova Quark, donc il faut que j'explique en deux mots le principe du jeu.
Explique effectivement.
Et après, vous allez voir comment ça peut effectivement se nourrir d'histoire. Le principe du jeu, c'est en fait, c'est assez simple. C'est un vieux rêve du jeu vidéo. C'est un MMO qu'on dit single shard, c'est-à-dire qu'il y a un seul univers, un seul monde. Et qui est en permanence activé, donc il n'y a pas de moment où ça s'arrête, où on reset, où il y a des instances. Il y a une seule réalité, et tous les joueurs peuvent rentrer dans ce monde et faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent construire des choses, un petit peu à la Minecraft, mais c'est plus joli parce que ce n'est pas des cubes, on peut sculpter ce qu'on veut, etc. Ils peuvent construire donc, des choses statiques, des bâtiments, etc. Ils peuvent construire des vaisseaux, ils peuvent les scripter, les piloter, partir dans l'espace, explorer d'autres planètes. Ils peuvent aller miner des ressources. Et alors après, ils peuvent aller les vendre sur des marchés qu'ils vont créer eux-mêmes. Ils peuvent délimiter des territoires. Ils peuvent créer des organisations. Ils peuvent inventer des systèmes politiques. Et en fait, c'est la liberté totale. L'idée, c'est le mot-clé, c'est gameplay émergent. C'est-à-dire que nous, en tant que boîte de jeux vidéo, ben, on met quasiment pas ou enfin à peine du contenu. Et on va pas mettre des histoires. Il va pas y avoir des quêtes. Il va pas y avoir des choses explicites comme ça. On laisse les joueurs créer dans un bac à sable avec des briques de base l'univers dont ils rêvent. Et c'est pas uniquement bon, si on prend l'exemple de Minecraft, c'est pas uniquement je construis une maison, etc. Ça va jusqu'à construire des structures politiques, géopolitiques, économiques, voire culturelles. Et c'est ça l'ambition du jeu. Ce qu'on peut résumer en disant que c'est une espèce de simulateur de civilisation au pluriel, où on espère que des centaines de milliers, voire des millions de gens vont entrer dans cet univers et créer leurs histoires avec un grand H. Parce que comme l'univers n'est jamais reseté, qu'on ne remet jamais à zéro, ben, tout ce qui est fait et s'ajoute à l'histoire de ce qui s'y passe. Si vous construisez une pyramide magnifique, et ben elle sera là. Si vous la détruisez, elle sera détruite. Et donc, il y a vraiment un sens de l'histoire. Et moi, c'est ce que je trouve très excitant dans le jeu vidéo, c'est ça, c'est de pouvoir se raconter une aventure, s'immerger dans un monde et avoir le sentiment qu'on peut influencer dessus et participer à l'élaboration de ce monde. Et alors, pour reconnecter avec l'histoire au sens du passé, ce qu'on met assez volontiers en avant, c'est cette idée que les gens vont pouvoir, pourquoi pas, inventer des nouveaux modèles politiques, inventer des nouveaux systèmes économiques, ce que je disais, mais c'est donc évidemment en référence à ce qui a déjà été fait dans l'histoire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut inventer autre chose que le capitalisme, le communisme, la féodalité, etc. Est-ce qu'on peut s'inventer des nouveaux modèles d'organisation de la société? Et donc, c'est une façon de prolonger l'histoire avec un grand H, mais dans un monde virtuel, sans grand risque. Hein, c'est dangereux d'expérimenter avec des modèles. Le siècle dernier, on a essayé des trucs. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que ça crispe la société qui a peur d'essayer de nouvelles choses. Hein, et dans un univers virtuel comme ça, je pense qu'on peut inventer une histoire personnelle en tant que joueur, mais collective, puisque c'est un MMO. Voilà. Alors, il n'est pas sorti, on est en train de le développer, il y a encore au moins un an de travail avant d'avoir une alpha. Malheureusement, je ne peux pas vous inviter à y jouer aujourd'hui, mais voilà, j'espère que ça va attirer beaucoup de gens, parce que, en gros, l'idée, c'est tout est possible quoi, dans ce monde. Et peut-être qu'on peut en tirer des enseignements, ou pourquoi pas des nouveaux modèles, qu'on peut tester des trucs, Et pourquoi pas, ça pourrait influencer des choses dans le monde réel, pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Voilà, c'est...
Ça a été fait sur certains MMO de tester des modèles sociologiques, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est l'idéal. Quoi.
Moi, ça me fait penser à EVEonline, ce qui se passe malgré ce qu'ont fait les développeurs sur EVEonline, à savoir ils se sont développés des structures sociales complètes.
C'est la référence. Hein. Yves, c'est un jeu qui a été fait il y a... Je pense qu'on a commencé le développement il y a, on va dire, une quinzaine d'années. Technologiquement, nous, on va aller beaucoup plus loin. On a des planètes, on peut se poser dessus. On peut construire physiquement des choses. On peut fabriquer ces vaisseaux. Dans EVEonline, les vaisseaux sont préfabriqués et préconçus, etc. Enfin, je veux dire, la forme et les caractéristiques des vaisseaux sont données par les concepteurs du jeu. Nous, pas du tout. Ça va même jusqu'à la physique du vaisseau. C'est-à-dire, vous mettez des réacteurs, vous allez les scripter. Et ben, c'est à vous d'écrire un script pour que ça se stabilise. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y ait une économie en jeu. Une vraie économie avec des marchés, etc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, vous, d'être un expert en scripting ou en aérodynamique ou ce que vous voulez pour pouvoir simplement piloter un vaisseau. Vous pouvez aller tout simplement en acheter un sur des marchés, là où des gens qui savent les faire les auront dupliqués et vendus. Ouais, c'est la même chose que quand on achète une voiture. La plupart des gens ne savent pas vraiment comment ça marche. En tout cas, seraient totalement incapables de fabriquer leur voiture. Donc c'est la clé de voûte pour que toutes ces expérimentations, à mon avis, prennent un sens. C'est qu'il y ait une forme d'échange économique. C'est-à-dire que chaque acteur du système, globalement, puisse coopérer avec les autres, alors sous une forme capitaliste avec des marchés ou de troc, peu importe, mais qu'il puisse y avoir une mutualisation des savoirs, des connaissances et des capacités. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on va immédiatement figer les dynamiques, on va figer ce qu'on peut voir apparaître et je crains que ça ne marche pas, en fait.
Et pour ça, vous êtes obligé de modéliser ou pas, en fonction justement des référents culturels et historiques qu'on peut avoir, de ce qui existe, quelle part vous pouvez réellement donner de liberté, ou est-ce qu'on vous est enfermé, vu qu'on est dans un jeu, donc il y a une programmation, il y a un moment donné où on est obligé de faire en sorte que les gens puissent faire les choses,
ouais.
Et pour imaginer ce qu'ils pourraient faire qu'on n'aurait pas encore imaginé, c'est là où c'est compliqué.
Absolument, on peut prendre un exemple, par exemple les organisations, qu'on n'appelle pas des guilds ou des corporations, où on essaie de trouver des termes un peu neutres, et ben en fait, dans le jeu, on a dû réfléchir à comment modéliser une organisation humaine de manière complètement générique. C'est presque une théorie de l'organisation, finalement, parce qu'il faut la coder à un moment donné et mettre les structures de données qui permettent d'exprimer à la fois une organisation de joueurs qui va être un pays, donc avec du territoire, avec éventuellement des votes ou un roi, ou tout ça. Et à l'autre extrême, la même structure va être capable de se spécialiser en modifiant des paramètres dedans, de telle sorte que ça devienne une corporation capitaliste classique avec un président, un directoire, etc. Et toute autre forme d'organisation, des guildes, des associations, des que sais-je. Et donc, c'est un exemple, et on en a d'autres sur plein de choses, sur les droits et devoirs, par exemple, formaliser les droits. On a à chaque fois fait un travail pour essayer de généraliser et trouver une structure qui soit spécialisable dans
assez balayable pour les joueurs. Quoi.
Ouais.
Et du coup, donc pour revenir sur, donc vous utilisez quand même des référents historiques du coup de ce qui existe. Par exemple dans Remember Me, Alain, le scénario et l'univers tournent autour donc de Paris et d'une idée de révolution également. Comment est-ce qu'il y a vraiment aucun lien, au moins dans culturel, avec la révolution que met en scène Assassin's Creed, ou est-ce que justement il y a quand même quelque part tu sens une influence? Non, mais ça rejoint en fait la thématique qui était de dire est-ce que l'utilisation de l'histoire par le jeu, c'est juste une espèce d'intrusion dans un domaine existant et ça vient faire jouer au chien dans le jeu de qui, ou est-ce que ça vient quelque part infuser une culture, infuser des choses comme ça? Est-ce que à travers votre révolution de Paris qui est futuriste, il y a aussi un jeu avec l'histoire quelque part?
Il y a un jeu avec l'histoire, mais c'est marrant, qui n'est pas fondé sur le temps, qui est fondé sur l'espace, quoi. C'est-à-dire qu'on a construit effectivement un Néo-Paris 2084 et sur lequel on avait défini, mais dès le départ d'ailleurs, c'était trois grands espaces. On avait le Deep Paris, on avait le Mid Paris et on avait le High Paris. Et ce fameux Deep Paris avait été fondé sur une dégradation vers le bidonville, vers la favela, donc s'inspirait géographiquement plutôt du Brésil ou des bidonvilles asiatiques. Après, on avait un mythe Paris qui était vraiment le Paris haussmannien avec sa grammaire architecturale très particulière, très, très reconnaissable, mais qu'on futurisait légèrement avec du verre, avec des matériaux un peu particuliers. Et derrière, on avait le côté, pour moi peut-être le moins intéressant, qui est très classique en science-fiction, c'était les gratte-ciels, c'était le High Paris avec un design extrêmement... extrêmement soigné, futuriste, etc. Et on faisait coexister un peu ces trois secteurs avec une évolution du joueur à travers, quoi. Donc il y avait un ancrage, en tout cas sur le mythe Paris, il y avait un ancrage sur l'haussmannien, une étude très, très précise de l'architecture haussmannienne et de sa grammaire, en fait, visuelle, quoi, qui a été menée, et on s'est éclaté, effectivement, à faire ça. Mais en dehors de ça, c'est extrêmement peu historicisé, quoi. Voilà, on est vraiment dans le cyberpunk, on est vraiment dans une logique d'anticipation, on est... Donc, ouais, y a pas de sol, pour moi, historique vraiment important dans ce, dans, dans ce travail-là. Voilà, sauf cette espèce de Paris éternel, de Paris musée, qui, effectivement, a des bâtiments clés. Par exemple, on avait la tour de la Bastille, etc., qui était là, qui était retravaillée dans le Deep Paris. On avait, une ancienne prison. Bon, il y avait un jeu, c'est vrai, si je peux dire quand même qu'il y avait un jeu avec, le, avec la prison de la Bastille, puisque la, la, la prison dans laquelle le joueur va, arrive et joue... est enterré sous la Bastille, quoi. Donc il y a, bon, on peut dire qu'il y a des petites références comme ça, mais pour moi c'est plus de l'ordre du gimmick, quoi. C'est pas quelque chose de fondamental, et en tout cas on n'essaie pas d'avoir une similitude ou une véracité là-dessus. C'est, on est très SF là pour le coup.
Alors du coup ça me fait me porter plutôt vers quand on est sur la création de, dans l'imaginaire, donc quel que soit le support, un des jeux les plus évidents avec l'histoire c'est l'Uchronie en fait, c'est donc le, de se poser à un point de l'histoire et d'imaginer ce qui se passe quand on en dévie. Peut-être dans l'écriture, Sybille, toi tu as des exemples ou des, une façon, enfin l'intérêt du coup de l'histoire dans ce cas-là comme référent
Ben, l'Uchronie est devenu un genre littéraire il n'y a pas trop longtemps qu'on essaie de définir. Ça me laisse un peu sceptique parce qu'on l'a toujours fait avant. Donc, mais maintenant, c'est devenu un genre littéraire.
Alors, j'en parlais pas bien... comme d'un genre, mais plutôt comme non, d'une mais... mécanique.
Ben, ça a toujours été une mécanique parce que de toute façon, à partir du moment où tu écris quelque chose, il y a bien un moment où ta fiction prend le pas sur la réalité. Je veux dire, même quand on croit imaginer quelque chose, on se base dans des références qu'on a, dans des références humaines communes. On n'invente jamais rien. Et celui qui croit qu'il a inventé quelque chose, ben, malheureusement pour lui, il n'a rien inventé. Donc chacun d'entre nous, en tant que créateur, on se base dans une réalité qu'on réinvente un petit peu avec notre propre sensibilité. Et à partir du moment où on s'est basé sur cette réalité, nos héros, nos personnages principaux et tout, vont faire dévier cette réalité. Donc l'Uchronie, c'est la nature de la fiction même. Sauf que des fois, l'Uchronie, elle est dans le passé, des fois, elle est dans le futur. Donc j'ai un peu de mal avec la notion même d'Uchronie, puisque c'est toujours de l'Uchronie. Donc... c'est délicat parce que, je veux dire, l'histoire nourrit tout ce qu'on est. Je veux dire, on se balade. Dans... Là, moi, je découvrais Nantes pour la première fois. Chaque fois que je viens aux Utopiales, j'arrive à la Cité des Congrès, je repars. Et cette fois-ci, je me suis dit, tiens, je vais aller visiter Nantes. Donc, je suis allée voir l'éléphant qui marche, forcément. Et là, il y avait ces grands hangars où il y avait autrefois la traite des Noirs. Là, tout de suite, ça m'a rebalancé dans l'histoire. Parce que même si je n'ai pas étudié la traite des esclaves, j'imagine ces gens comme moi qui ont été embarqués, ces hangars et tout. Donc... on baigne dans l'histoire perpétuellement. Quand on se balade dans une rue, il y a des maisons qui ont vécu quelque chose, une petite histoire ou une grande histoire. Et c'est ce qu'on est en tant qu'humain. L'histoire, c'est le parcours de nos ancêtres, c'est notre parcours à nous. Donc c'est délicat de toujours... Assassin's Creed, c'est un beau jeu dans des belles maisons et tout ça. Moi, mes fils, ils s'éclatent dedans. Je trouve ça magnifique. Je les regarde jouer. Alors, je suis pas douée. Alors, du coup, je tombe et tout. Mais je les regarde et c'est beau. Et ça fait partie de... Mais comme si moi, je me baladais dans cette ville. Est-ce que ma référence à l'histoire est bonne ou pas? Peu importe, les bâtiments sont beaux. Donc, les gens veulent théoriser des choses qui sont naturelles dans l'art. Et presque, c'est dommage. Il faut qu'on reste des artistes. Et tout ce matériau est à notre disposition comme on veut et comme on en a envie, quoi. Donc...
Effectivement. Non, mais c'est... d'accord. Et donc, du coup, là, sur la création, peut-être sur le fait de vouloir concevoir des univers, Alors là, on va s'éloigner un peu de l'histoire, où on va l'utiliser, comme tu le dis, Sybille, comme, bah, comme matériau. On a tous des références qui... Enfin, ça nous sert de référence à tout ce qu'on peut imaginer. Pour la conception de l'univers, donc toi, justement, Alain, qui dit que tu pars plutôt du présent et tu te projettes dans des futurs possibles. Ou toi, Jean-Christophe, donc, qui est sur, pareil, sur la même chose, sur un univers qui n'existe pas et qui part sur... qui est une projection de ce que pourrait, de ce qu'on pourrait devenir. Quel jeu, justement, comment vous construisez une nouvelle histoire, en fait? Non?
Si, si, non, mais en fait, je peux peut-être reprendre ta question et puis
vas-y, faisons ce que tu veux.
Mais, non, mais c'est en fait le problème, c'est comment faire une histoire, c'est-à-dire que comment donner les bonnes briques dans ce que j'expliquais tout à l'heure pour que ça marche, c'est-à-dire que les gens s'en saisissent et que ce soit générateur de choses intéressantes. C'est pas loin de... Enfin, non, c'est très loin, mais conceptuellement, c'est un peu comme le jeu de la vie. C'est-à-dire qu'il faut mettre les bonnes règles, et quand on enclenche le truc, soit on va avoir des structures qui tombent à plat et bon, bah, c'était pas la bonne combinaison de règles, ça prend pas, l'étincelle démarre pas. Soit, d'un seul coup, on a mis les bons éléments et ils sont extrêmement générateurs, c'est-à-dire en les recombinant, on est capable d'exprimer une infinité de choses, et en particulier des choses intéressantes. Et ça... Eh ben, je pense que c'est, à minima, c'est une forme d'art. Ça, c'est compliqué à formaliser. Alors, après, en pratique, on va faire des tests, on va en faire venir des gens et on regarde ce qui se passe. Mais c'est très difficile de savoir quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dans la soupe, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a besoin, je prends un exemple, hein, c'est un peu théorique, sinon, c'est pas très intéressant. Donc, on a des territoires. Est-ce qu'on va formaliser dans le jeu le fait qu'un territoire a est constitué d'un ensemble de petites zones géographiques, et donc un territoire étendu, c'est une collection de ces petites zones, donc des hexagones par exemple, à la surface d'une planète? Ou est-ce qu'on dit non, tout ça c'est artificiel, donc on ne fait pas du tout, les gens ils ont qu'à poser par exemple des espèces de clôtures, et puis de facto les territoires ils sont définis par le fait que si je franchis la clôture, il y a un type qui me tape dessus, quoi, voilà, et si j'ai pas le droit de passer, donc ou alors il y a des gardes frontières, et effectivement au moment où je passe, il se passe un truc, quoi, je peux pas passer cette zone. Alors là par exemple, on a fait le choix d'avoir des petites zones. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que dans la vraie vie, être garde frontière, c'est un métier qui existe, et il y a des gens qui le font et qui passent leur journée à faire ça, mais que c'était peut-être pas super fun. C'est avoir un joueur qui passe sa journée à attendre qu'éventuellement un joueur se pointe pour lui dire non, t'as pas le droit de passer, et éventuellement avoir un combat à la suite de ça, c'était pas forcément fun. Dans le genre aussi, on a essayé de formaliser des contrats. Enfin, je crois qu'on n'ait pas besoin d'avoir des avocats, des gens comme ça. Alors, on s'est dit que c'était peut-être pas forcément super marrant que des joueurs se consacrent à faire ça. Donc, c'est un exemple. Voilà. Donc, quels sont les éléments à mettre ou à ne pas mettre?
Non, mais c'est intéressant, parce que justement, vous avez traité le truc en enlevant ce qui vous paraissait...
Désolé, s'il y a des avocats dans la salle, c'est un super métier. mais je suis pas sûr que vous jouiez toute la journée.
Vous avez essayé d'enlever ce qui n'était pas effectivement fun dans le cadre d'un jeu, ce qui est un peu ce que n'ont pas vu les gens qui critiquaient Assassin's Creed Unity pour sa non-véracité historique, qui était ils ont enlevé les choses qui n'étaient pas fun dans leur narration et dans leur jeu, et en jouant juste avec ce dont ils avaient besoin pour imaginer. Ça me fait penser sur votre jeu, est-ce que vous avez imaginé comme dans... parce que EVE Online a une histoire.
Oui.
Et est-ce que vous avez imaginé un support et un enregistrement de cette histoire? Parce que EVE, effectivement, ouais. Il y a des pages et des pages de écrites sur ce qui s'est passé, sur d'enregistrement. Ils ont même des gens qui sont là pour ça.
Oui, mais il y a des gens qui le font. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se mettent à écrire des livres d'histoire, de l'histoire de EVE, de ce qui s'est passé, des alliances qui sont formées, des guerres qui ont lieu, etc.
Est-ce que vous avez prévu, d'intégrer cette dimension construction d'histoire, parce que vous proposez aux gens de construire des choses?
Oui, c'est compliqué parce qu'il faudrait à ce moment-là indiquer quels sont les événements qu'on enregistre. Qu'est-ce qu'un événement?
Non, on va avoir des gens qui regardent le jeu se dérouler et qui du coup, bien sûr, écrivent dessus.
Alors déjà, les joueurs peuvent le faire. On imagine aussi qu'on puisse avoir des visiteurs passifs, c'est-à-dire des gens qui sont là mais qui regardent et c'est tout. Ça, c'est très intéressant. Je pense que ça a dû déjà être fait, mais après, Il faut se souvenir aussi que il y a des barrières technologiques qui étaient, par exemple, si on veut streamer, ce qu'on a envie de faire, par exemple, c'est mettre une caméra dans le monde. Vous pouvez poser votre caméra et vous la streamer vers l'extérieur du monde. Donc vous pouvez, depuis un navigateur, voir ce qui se passe à l'intérieur, comme une webcam, voilà. Ça, bah, par exemple, si on a des modems 56K, c'est pas possible. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas pu être tentées et qu'aujourd'hui, maintenant, avec le haut débit plus ou moins généralisé quand même, on peut le faire. Mais voilà, par exemple, poser des caméras, avoir des... on peut aller sur un site où on voit ce qui se passe. Vous imaginez une grande ville, la capitale impériale, on a une caméra en haut de la tour du palais de l'empereur qui filme la place principale et on voit plein de mecs qui se baladent, des vaisseaux qui se posent, etc. C'est sympa. Voilà. Et est-ce que ça, ça peut être servi... Enfin, on peut s'en servir comme des espèces d'enregistrement historique, bien sûr, et je pense que des gens vont le faire. Mais encore une fois, là, j'ai envie, autant que possible, de toujours laisser la communauté et les joueurs s'emparer d'outils. Donc voilà, je mets des caméras. Ok, vous pouvez faire ça maintenant. Mais je ne vais pas forcément écrire les choses, enfin, ou mettre en place des systèmes qui vont dire comment il faut faire, en fait. Je pense que c'est mieux comme ça.
D'accord, plus génératif. Et donc toi, Alain, ça me fait réagir par ce que tu disais tout à l'heure. Donc tu dis d'une part que l'histoire était quelque chose qui te faisait, qui t'intéressait pas forcément, qui t'intéresse pas non plus maintenant en tant que support de création. Mais tu disais aussi tout à l'heure que dans la conférence précédente, que sur Remember Me, tu avais commencé par écrire effectivement une bible de 1000 pages, de tout ça. En gros, est-ce que ton travail, c'est pas de, à chaque fois, d'écrire une, enfin, de faire ce que, d'écrire une histoire au sens historique du terme, de des univers que tu imagines?
C'est pas des histoires au sens, même s'il y a toute petite dimension historique. Par exemple, dans Remember Me, j'avais confié justement à Léo Henry et Jacques Mukieli, deux auteurs de SF, un vrai délire qui était de d'écrire l'histoire de 2010 à 2084, puisque le jeu avait lieu en 2084. Mais c'était plus de l'ordre du jeu. Donc ils ont fait une géopolitique hallucinante, ils se sont éclatés, ils ont, je sais pas, il y avait une vingtaine de pages là-dessus, quoi, en créant de nouveaux empires, en faisant, voilà, bon. Mais franchement, il n'y avait aucun impact sur le jeu, quoi, sauf des petits gimmicks en disant 70, c'est passé ça et ça, bon. Et donc, il y avait les places qui étaient appelées avec ces noms-là. Mais la réalité, c'est qu'on parle de concept. La réalité, c'est ça. Enfin, moi, je bâtis des mondes à partir de concepts. Voilà, là, le concept, c'était on va digitaliser la mémoire humaine. La mémoire humaine, n'importe quel souvenir vécu, n'importe quel moment vécu, peut faire l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement peut être revécu par quelqu'un d'autre avec son système nerveux central. Et on a un personnage qui va hacker, qui va remixer la mémoire des gens. C'était le gameplay principal. Et donc, à partir de ce concept de digitalisation de la mémoire humaine, on a bâti toute une économie, on a bâti des technologies, du contrôle, on a bâti une écologie, on a bâti des mouvements révolutionnaires, on a bâti un mode de gouvernementalité, on a bâti des banques, on a, voilà. Donc on a déployé autour du concept, voilà. Mais c'est pas du tout une logique historique, quoi. C'est vraiment une logique, je dirais, instantanée ou géographique, ou voilà, c'est pas du tout, comment on dit, diachronique, et puis, oui, je sais plus, ça y est, j'ai le cerveau en compote. Mais voilà, ça se passe à un moment donné, et c'est le concept qui déploie l'univers. Voilà. Donc il y a pas cet accrochage de cette espèce de chronologie qui va jouer. Et dans les quatre univers que j'ai bâtis, quoi, que ce soit les Remember Me, que ce soit la Horde, que ce soit les Furtifs, que ce soit Fusion, c'est les quatre univers sur lesquels j'ai vraiment travaillé. Dans aucun il y a une dimension historique où j'ai besoin de bâtir une histoire avant. L'histoire, elle naît des personnages. C'est plus une projection vers l'invention de récits. C'est 20, 25 personnages la plupart du temps. C'est des lieux, c'est des sites, c'est des concepts, c'est des modes d'organisation, c'est des logiques politiques, etc. Mais c'est pas du tout, j'ai pas d'ancrage historique. Mais c'est marrant, je me rends compte là en faisant cette table ronde, j'ai pas du tout, c'est pas du tout pour moi un point d'appui. Voilà, c'est pas un point d'appui du tout. Hein. Ouais, ça m'aide pas à créer, ça m'aide pas à inventer, ça m'aide pas à bâtir des récits qui soient intéressants, quoi.
Il y a aussi un autre élément, c'est que l'histoire, alors pas forcément l'histoire au sens la vraie histoire qui s'est passée, mais le fait qu'il y ait une histoire avant qu'on démarre, en tout cas chez nous, ça peut être utile pour ancrer le joueur dans une situation, dire mais en fait d'où je viens, etc. Et Alain m'a fait l'immense plaisir d'accepter d'écrire en fait une petite nouvelle qui est d'ailleurs accessible sur le site du dev blog du jeu. Qui raconte en fait l'histoire, la backstory, comme on dit, donc de ce qui s'est passé juste avant que le joueur n'entre en jeu et que l'histoire, mais la suite de l'histoire, donc du coup, se passe. Voilà. Donc c'est toute une histoire.
Ouais, mais c'est pas une histoire, enfin, au sens où.
Non, mais c'est pas historique au sens, le 17e siècle, etc. Mais en fait, pour les joueurs qui sont dans cet univers, c'est de l'histoire. Tu vois, c'est vraiment ce qui leur est arrivé. Et ça donne aussi un ancrage et un sens à pourquoi ils sont là, pourquoi ils vont reconstruire la civilisation. Pour pas que ce soit creux, quoi. C'est-à-dire que, enfin, qu'on puisse, en fait, d'une certaine manière, un petit peu roleplayer, quoi. C'est rentrer dans le truc et voilà. Donc il y a une nouvelle d'Alain Damasio.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est, tu vois, par rapport à ça, justement, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que Jean-Christophe m'appelle pour dire, bon, on a besoin quand même si c'est un monde totalement émergent et fondé sur les méta-règles. Et moi, je trouve ça passionnant parce que, effectivement, il faut énormément d'intelligence pour bâtir ces méta-règles qui permettent ensuite de construire les organisations politiques, etc. Et je trouve ce travail, moi, fascinant. Et simplement, il dit, voilà, il faut quand même un ancrage narratif minimal, il faut quand même que le joueur puisse, en quelque sorte, prévisualiser ce qu'il va le jouer, quoi. Et donc, j'ai bâti les premières scènes du jeu, les premiers moments du jeu. Mais il y a effectivement un grand exode, il y a des choses, mais c'est extrêmement court. Ce qui crée, pour moi, l'immersion et ce qui crée l'accroche dans l'univers, c'est les premières sensations physiques de la personne dans le vaisseau qui se réveille de son hibernacle, qui comprend rien, qui est connectée à une IA, l'IA à la voix de la copine qu'il a laissée sur Terre, etc. Alors, tu vas me dire, c'est une histoire, oui, mais c'est une histoire au sens narratif, tu vois. En tout cas, c'est pas une dimension historique, je raconte pas ce qui s'est passé sur Terre pendant, tu vois, 50 ans, ou même 30 ans, ou même 10 ans. C'est à peine évoqué, quoi, tu vois. C'est plutôt qu'on amorce une dynamique de jeu. Voilà, on amorce une dynamique de jeu. Et ça, c'est important. Et je pense que tout jeu, même totalement émergent comme les Dual aujourd'hui, quoi, a besoin de cette amorce. Ouais, je crois, quoi. On peut pas suspendre totalement le joueur en l'air. Il y a un moment donné où il faut lui donner. C'est un peu comme le loup en surfusion pour moi. C'est-à-dire, il faut un tout petit grain de cristallisation qui fait que hop, tout d'un coup, ça va prendre place. Les choses vont catalyser, vont se cristalliser autour de ce point. Et ce point, souvent, c'est une toute petite amorce narrative comme ça qui va aider à le faire. Ouais.
Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à quelque chose qui est au contraire très différent dans le jeu de rôle notamment, où même les jeux de rôle très fantaisistes, la plupart vont s'attacher à des réalités historiques, alors pas forcément dans l'histoire au sens ce qui s'est passé, mais plutôt l'histoire au sens des matériaux, par exemple des outils, des objets, etc. Est-ce que là-dessus on n'a pas des gens qui parlent de la pratique d'un jeu et de l'imagination ne viennent pas s'appuyer et chercher puiser dans l'histoire, justement?
Il y a une particularité sur le jeu de rôle, c'est que ça va rassembler. Quand on joue au jeu de rôle, on n'est pas un créatif qui a l'habitude d'être tout seul devant son ordinateur et tout réinventer. Donc en jeu de rôle, il faut que rapidement les joueurs à ta table adoptent ton monde. Donc si tu commences à rebaptiser chaque métaux, chaque bout de bois et tout ça, tu leur balances plein de noms en début de partie, t'as plus personne. Donc clairement, je pensais pendant qu'on parlait de background, c'est qu'en jeu de rôle, l'idée, c'est qu'on arrive avec une histoire. Parce que si tu commences la partie, tu sais pas qui t'es, tu sais pas pourquoi t'es là, tu sais pas dans quel monde tu te trouves, ta partie de jeu de rôle, elle est foutue. Donc je pense que le jeu de rôle a des besoins d'ancrage dans la réalité qui sont beaucoup plus forts. En jeu vidéo, à la rigueur, tu présentes un bout de bois et tu l'appelles autrement, tu t'arranges pour qu'il y ait une petite étiquette pendant les premières heures de tutoriel du jeu, c'est jouable. En jeu de rôle, tu peux pas mettre des tutoriels avec des étiquettes pendant que tu racontes ta partie. Donc le jeu de rôle a des besoins réalistes que n'ont peut-être pas besoin les autres arts, puisqu'on est un peu tout seul et que le lecteur va avoir le temps de s'accaparer ce qu'il reçoit.
C'est un peu ce que je voulais dire aussi, c'est tout à l'heure, mais... C'est, voilà, l'œuvre d'art qui serait absolument sans aucune racine historique, sans référence, elle est totalement incompréhensible, puisqu'il n'y a absolument rien de commun ni de connu dedans. Donc c'est quelque chose de profondément incompréhensible. Il y a forcément des références pour guider les gens, pour les appuyer. Enfin, c'est juste évident, en fait. Alors que ça pourrait être intéressant d'imaginer une œuvre d'art totalement... Ouais.
On peut aller très loin dans leur sol, quoi. C'est vrai qu'il y a certains livres qui peuvent partir d'un concept extrêmement abstrait ou extrêmement peu ancré, mais forcément tu retombes à un moment donné sur des référents communs, sinon c'est illisible, ouais, c'est clair.
Mais
peut-être laisser des questions.
Oui, non, pas l'histoire en tant que telle, par contre, effectivement. C'est pas forcément un très bon référent. Ouais. Les référents classiques, effectivement, tu parlais des noms, etc. Je me rappelle effectivement avoir lu notamment Scott Card dans les conseils qu'il donnait à l'époque où il avait écrit son livre sur comment écrire de la fantasy. où un des premiers écueils qu'il dénonçait, c'était effectivement le fait de partir avec plein de noms délirants, plein de redéfinitions de tout, qui laissait, et du coup, c'est, à mon avis, pas que dans le jeu de rôle, c'est aussi dans la littérature, le côté besoin de référent. Mais là, effectivement, on n'est plus dans le traitement de l'histoire. Est-ce qu'on a des questions, justement, dans le public ? Apparemment, oui. Donc, si, y en a plusieurs.
Merci. Je voudrais poser une question, justement. Ça, je pense, comme vous, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à revenir sur l'épiphénomène polémique, politique dont on a parlé au début. Par contre, penser qu'une boîte comme Ubisoft, qui a quand même une certaine influence, on va dire, et des méthodes de marketing très agressives basées sur, justement, une forme de réalité historique qu'ils vont présenter, se dire qu'avec une influence comme ça, on n'a pas une forme de responsabilité sur ce qui va être créé ensuite, je pense que c'est aussi un peu illusoire. Si on peut, par exemple, parler dans la zone du dehors du jeu vidéo qui est utilisé comme une manière de propagande sur ce que font Capt et ses amis par la suite, on sait que, par exemple, l'armée américaine, depuis quelques années, utilise un FPS donc qui présente effectivement des soldats américains en train de lutter vaillamment pour la liberté à travers ce médium-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même de la part d'Ubisoft, et j'avoue que j'ai pas mal d'amis qui sont historiens, et notamment historiens du droit, qui sont choqués vraiment par l'image qui a été donnée d'une, de la Révolution française, et de deux, du personnage de Robespierre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité de ces deux gens, comme Ubisoft, par exemple ?
Excuse-moi, est-ce que tu peux préciser si ta question, du coup, interroge le fait que le jeu vidéo soit un média différent des autres quand il transmet une information, parce que j'imagine que des livres ou des jeux de rôle qui retravaillent l'histoire, je ne sais pas si tu connais le jeu de rôle 7C, mais qui est un jeu de rôle qui retravaille l'histoire d'une certaine manière et qui part complètement dans autre chose, ou le jeu de rôle de Jean-Philippe Jaworski, Tédéum pour un massacre, qui parle de l'histoire aussi, personne n'est venu effectivement leur tomber dessus sur le fait que la vision qu'ils présentaient de l'histoire pouvait être mal comprise, ou enfin on n'est pas venu leur dire qu'ils avaient une responsabilité sur ce qu'ils apportaient comme vision.
Non, mais on parle d'Ubisoft, et Ubisoft, c'est qu'un exemple, on va dire, ça pourrait être quelque chose qui est peut-être amené à repartir sur d'autres périodes du temps. Donc à partir du moment où il y a ça, justement, est-ce qu'il ne faut pas taper en préventif, effectivement, avant que des énormités soient dites? Moi, je sais que j'ai bossé avec des enfants, et il y en a énormément qui m'ont dit « Ah ouais, Machiavel, c'est le mec dans Assassin's Creed 2, trop bien et tout. » Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire de Machiavel « Ouais, trop bien, c'est un mec cool. »
Effectivement. Des réactions sur ce sujet ?
Moi, je redis, je pense qu'il faut quand même faire confiance à l'intelligence des gens. Sur l'exemple de Machiavel, s'il le trouve vraiment cool, il y a quand même des chances qu'il aille se renseigner à un moment donné sur Internet, alors avec tous les avis divers et variés. Hein. Mais enfin bon, je veux dire, s'il y a dissonance, elle va normalement apparaître assez rapidement. Moi, je trouve que c'est plus inquiétant quand il y a des sources d'informations ponctuelles, uniques, sur lesquelles on ne va pas pouvoir avoir accès à une comparaison justement historique. Voilà, je sais pas. J'ai l'impression que si quelqu'un s'intéresse à Robespierre, il y a moult avis, opinions, livres, etc.
Et du coup, le fait de l'avoir découvert à travers le jeu, peut éventuellement être l'initiative, le début d'un intérêt pour le sujet, quoi.
Moi, je suis pas sûr du tout que les joueurs, et surtout jeunes, fassent cet effort-là. Justement, c'est ça le problème, quoi. C'est que nous, voilà, on est très éduqués, etc. On aura envie de comparer la représentation de Robespierre dans Unity avec ce qu'on en sait. Et puis, c'est vrai qu'en France, c'est pour ça que Mélenchon a réagi. Je pensais que la Révolution française est un terrain de lutte idéologique extrêmement fort. On ne cesse de réinterpréter cette révolution et on cesse de l'instrumentaliser pour des fins politiques. Et Ubisoft, traitant ce sujet-là, forcément apporte un regard et forcément apporte un imaginaire de cette révolution, quoi. Et cet imaginaire, je suis pas sûr qu'un gamin de 12 ans a envie de le questionner, de le réinterroger, d'aller sur Internet vérifier, etc., tu vois. Et donc, on va préempter une forme d'imaginaire de cette révolution. Et c'est en ce sens-là que moi, ça me fait réagir, effectivement, et que je pense que c'est peut-être critiquable, tu vois, ou en tout cas, que ça peut être très dangereux dans la lecture. Maintenant, les gens sont pas des débiles non plus, hein, je suis d'accord. Un adulte, la moyenne des joueurs, c'est 36 ans aujourd'hui. Donc bon, maintenant, sur les ados, ça me pose quand même problème, parce que encore une fois, je pense que d'une façon ou d'une autre, tu pré-guides ou tu pré-orientes l'imaginaire que les gens vont avoir de cette révolution.
Mais est-ce que les films de KPDP, par exemple, n'ont pas toujours fait ça et n'ont pas été aussi vertement critiqué sur la partie.
C'est valable au cinéma, c'est valable en littérature aussi. Ouais. Hein, c'est clairement un enjeu. Simplement, la différence, et moi je pense qu'il faut le dire sur le jeu vidéo, le vidéo est extrêmement immersif, est une expérience extrêmement physique, qui laisse des traces mémorielles et qui dépose une mémoire comme ça, qui sédimente une mémoire, à mon avis, plus forte que le cinéma, par exemple. Et du coup, si vous jouez à l'intérieur de la Révolution avec un certain type de violence, un certain type de rapport, avec un certain type de bâtiment, avec un certain type de logique, vous allez les intégrer comme une vérité beaucoup plus facilement que si vous avez regardé un film. Donc ça, je pense que c'est quand même piégeant, plus piégeant qu'un film, quoi, voilà.
Moi, j'aimerais rebondir parce que je partage pas cet avis et au contraire, ça me choque carrément. Enfin, ça choque est un grand mot, mais si on commence à censurer Ubisoft parce qu'il fait de la fiction, on va commencer par les jeux vidéo parce qu'il y a beaucoup d'argent et puis après on arrivera sur les auteurs et à la fin on arrivera sur le jeu de rôle. Donc non, la création doit être protégée à partir du moment où on est dans la fiction. On doit tout se permettre. Les artistes doivent avoir toutes les licences. C'est un peu ça le principe de liberté de création. Après, prendre les adolescents pour des imbéciles, moi j'ai du mal. Je suis maman de deux adolescents. Ils jouent à Call of Duty, ils jouent à Assassin's Creed et tout ça. Et après, ils vont sur Wikipédia, ils apprennent. Donc, c'est plutôt la responsabilité des parents. Voilà.
Attention, il y a des gens qui vont critiquer le
non,
fait
mais
de l'apprendre
voilà.
sur Wikipédia.
Enfin, je veux dire, on est des parents. Et si nos enfants sont assez stupides pour croire que Machiavel ou Robespierre, c'est un type dans un jeu vidéo, eh ben, c'est les parents qu'il faut rééduquer. C'est pas les créateurs qu'il faut commencer à censurer.
Non, donc, mais je suis pas d'accord avec ça du tout. Bon, c'est bien, on va s'engueuler, on se réveille à la fin. Mais non, je suis absolument pas d'accord là-dessus. On a une responsabilité en tant que créateur. Je veux dire, les créateurs, ils ont pas une liberté absolue, etc. Ils endossent aussi une responsabilité. Tu formes des imaginaires. Moi, quand je fais un livre, je sais que je forme des imaginaires de la lutte, des imaginaires de la soumission, des imaginaires de du respect, les imaginaires de la haine, et je forge les imaginaires que je vais porter vers un grand public. Et quand tu fais un jeu Ubisoft, tu sais qu'il va y avoir 5, 6, 10 millions de joueurs, t'as une responsabilité par rapport au type de révolution que tu vas porter vers le public, quoi, tu vois. Il faut pas s'abriter derrière la liberté du créateur, surtout que c'est pas des créateurs, c'est une industrie, le jeu vidéo, et je peux t'en parler, parce que j'ai créé des jeux, et quand t'es 80 personnes, et ben, t'es soumis à des règles qui sont relativement fortes, contraignantes, des règles du marché, des règles du capitalisme, des règles de l'audience, et du coup, t'es beaucoup moins dans une création que dans la soumission à des logiques globales industrielles. Et sur Ubisoft, moi je trouve que c'est pas pardonnable au sens où voilà quoi, il s'assoit là-dessus tranquillement et qu'on le veuille ou non, il préempte un imaginaire quoi. Il nous offre un imaginaire de la révolution qui est pas forcément celui que j'ai envie de voir ou celui que j'ai envie de voilà. Donc c'est pas, on peut pas les abriter de la liberté de création, c'est pas vrai quoi. Tu vois, la création est un acte libre, mais est un acte responsable, est un acte qui engage des valeurs quoi. Et ces valeurs, c'est important de les questionner dans le jeu vidéo comme ailleurs quoi. C'est, je sais pas. Moi, c'est...
Oui, il y avait une question devant là. Si le micro, s'il pouvait venir devant.
Merci beaucoup. Je voulais revenir deux remarques en fait au début. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'historien ici.
Ouais, alors c'était prévu.
D'accord.
Et en fait, il était prévu que ce soit un des deux historiens qui a travaillé sur Assassin's Creed Unity. Okay. Et effectivement, il devait être là, d'accord. Mais il a dû se décommander.
Ensuite, une autre remarque. Le jeu vidéo devient un phénomène de masse de plus en plus. Ce que vous disiez, je rejoins vraiment votre vision. C'est un phénomène majeur, et quand on a 3 heures d'histoire en collège, quand on lutte avec des visions aussi réductrices que Assassin's Creed, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Donc il ne s'agit pas d'une intrusion d'historiens ou de scientifiques dans le domaine du jeu vidéo, mais il s'agit qu'en fait le jeu vidéo aborde des sujets sérieux, et c'est tant mieux. Mais du coup, il y a une responsabilité. Enfin, l'histoire est ultra politique, on le voit depuis des années, mais en ce moment, avec Sarkozy, par exemple, l'esclavage ou Guy Moquet, on ne peut pas traiter des sujets comme ça sous la liberté du créateur. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est normal qu'à un moment donné, les historiens se mettent en colère là-dessus, et en tout cas, avertissent. On peut éduquer avec le jeu vidéo. Beaucoup de profs l'utilisent. Le jeu de rôle aussi, il est utilisé en histoire, énormément. Et ça ne veut pas être traité à la légère, en fait. Le jeu vidéo devient politique et l'histoire l'est énormément. Donc, je rejoins plutôt votre opinion.
Ouais, juste là-dessus, il ne s'agit pas de critiquer la liberté du créateur. Évidemment, le créateur est libre, il doit rester libre. Simplement que cette liberté engendre et suscite et porte une responsabilité. C'est exactement ça, tu vois. Il ne s'agit pas de dire les historiens doivent dire ce qu'on doit dire dans Assassin's Creed. C'est pas le problème. C'est juste que ce qui porte moi, en tant que joueur, en tant que citoyen, j'ai le droit de le critiquer et de le mettre en cause s'il pervertit, à mon avis, un imaginaire de la Révolution. Quoi. En plus, il le récupère, il le recycle, il s'en sert, comme le capitaliste sait très bien faire. Hein.
Le truc, c'est, si on pousse le bouchon un peu loin quand même, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a certainement des controverses sur l'interprétation de la Révolution, etc. Donc, c'est pas comme s'il y avait une vérité scientifique, sur le coup. Et donc, la conclusion logique aussi de ce qu'on dit là, c'est aussi de dire, bon, bah, dans ce cas-là, c'est un terrain interdit pour la création artistique parce que, quel que soit le point de vue qu'on serait amené à apporter, même s'il est nourri par des historiens respectables, etc., il est tout à fait probable qu'il y ait une bonne partie des historiens qui ne soient pas d'accord parce qu'il y a des controverses, etc. Donc, du coup, ça veut dire qu'on s'interdit.
Non.
Enfin, tu vois, Oui, mais on ne peut pas faire un débat si on adopte un point de vue où on présente une certaine vision, tu vois. Donc, du coup, c'est pas évident, quoi.
Non, le but, c'est jamais l'interdire. Le but, c'est de débattre. Et on peut débattre de la façon dont Assassin's Creed a traité la Révolution. Hein. Ou la religion. Hein.
Ça me paraît pas simple, en tout cas.
Non, c'est pas simple.
D'autres questions, là, devant ?
Ouais, lui.
Après, attrape le micro, après, Thierry.
Oui, du coup, dans le même genre, je me demandais... Peut-être que ça existe, que je ne suis pas au courant. Est-ce qu'il existe une espèce de commission sur le thème du jeu vidéo avec, par exemple, des historiens qui pourraient débattre éventuellement des parties à remodifier, à supprimer, à ajouter sur les jeux vidéo ?
Alors, non, ça n'existe pas. Mais il faut se poser la question, est-ce que ça devrait exister pour le cinéma, pour le livre, pour toutes les œuvres créatives ?
Au final, pour les autres médias, ça existe, on n'en parle peut-être pas, ils sont peut-être censurés, à moitié censurés. Et le problème du jeu vidéo, c'est que c'est un média qui touche tellement, et principalement de jeunes, et au final, ils sont surveillés par qui les jeux vidéo ? Par personne, et c'est pour ça que ça dérange au niveau de l'éthique. Donc, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place une commission ?
Juste sur la partie, ils sont revus sur la partie accessibilité aux tranches d'âge ou choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une codification. Après, au-delà, effectivement, sur les contenus, non. Vous disiez qu'il y avait des choses sur la littérature ou le cinéma ?
Le cinéma, oui, bien sûr, il y a des historiens.
Il y a un micro derrière.
Oui, pardon. Oui, pour le cinéma, bien sûr, il y a des historiens qui travaillent en collaboration avec les réalisateurs.
Oui, mais c'est le cas aussi sur Assassin's Creed Unity, justement. Ils avaient deux historiens qui ont apporté leurs matériaux, histoire au jeu. Et après, bon, le jeu a été fait comme il a été fait, mais... C'est, y a pas ce que voulait dire la demoiselle, je pense, c'est plus est-ce qu'il y a une commission qui devrait voir si les œuvres sont dans le cadre ou pas, quoi. Et ça n'existe pas dans aucune création.
Je ne sais pas si ça devrait être mis à jour. En tout cas, à se rappeler qu'il n'y a pas de vérité en histoire, qu'il y a des débats constants et que présenter un jeu vidéo avec une certaine vision, ça influence des millions de personnes. Et que c'est très politique.
Moi je pense qu'il faut défendre la liberté d'expression et laisser des choses se dire, et ensuite avoir une force qui va dire non, je suis pas d'accord. Et voilà, c'est-à-dire que il faut qu'on puisse dire des conneries, mais qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour dire moi je pense que c'est des conneries, et qu'il y ait donc des débats démocratiques. C'est imparfait et ça ne marche pas toujours face à la puissance marketing de certains. Quelle réponse apporter, quelle voix, on pourrait dire que du coup que Mélenchon a fait ce travail là en fait, parce qu'il a mis le sujet sur la table. Mais on ne pourra pas, enfin, on va pas faire des commissions qui autorisent, sinon on rentre, vous connaissez ce que ça peut donner, hein, enfin voilà. Je pense qu'il faut laisser les gens dire, y compris des choses, enfin bon, après, ça va très loin ce que je dis aussi sur le racisme, etc. Moi je pense qu'il faut laisser les gens dire n'importe quoi, mais en revanche, il faut des contradicteurs. Et à la limite, il faut organiser le débat contradictoire et qu'il y ait des mécanismes qui font que quand il y a contradiction forte, elle puisse s'exprimer. Voilà, je sais pas comment il faut faire, hein, mais ça me paraît être cette direction-là qui est préférable.
La difficulté avec le jeu étant qu'effectivement leur zone d'influence dépend des sommes dépensées pour les proposer au grand public, et qu'effectivement il faut trouver quelqu'un en face capable d'avoir autant de poids médiatique.
Oui.
Question ?
Non, des affirmations. La première, je voulais rappeler à Alain qu'il y avait des auteurs dans le jeu vidéo. Enfin, ouais. Voilà, c'est effectivement rarement des équipes de 80 personnes, quoique. Mais il y a des vrais. Des vrais volontaires d'auteurs, surtout. Et des vrais volontaires d'auteurs, des fois, c'est d'histoire de la réalité, y compris d'histoire de l'histoire. Ensuite, vous avez beaucoup focusé sur Assassin's Creed, qui ne me semble pas vraiment un jeu historique. Moi, quand je pense à un jeu historique, je pense à Civilization, je pense à Age of Empires,
Europa Universalis qui traite
Rome Total War, etc. Et quand je pense à quelqu'un qui joue à Rome Total War, en fait, effectivement, le nom du général romain, bah, c'est le vrai nom. Sauf que ce général romain, bah, tu le déplaces dans le sud, alors qu'en réalité, il est parti dans le nord, quoi. Donc, en fait, tu es en train de réécrire, de toute façon, l'histoire dans la plus fidèle représentation de ce qu'on a inventé en jeu vidéo, de l'histoire. Le jeu vidéo, enfin, ce qu'on a aujourd'hui comme vision de l'histoire, c'est un truc linéaire. C'est, il est parti de Rome, et, voilà, Hannibal, il a traversé les trucs, etc. Mais si toi, tu as envie de faire partir ton animal vers l'Espagne, tu as juste le droit. Donc, de toute façon, dans un jeu vidéo, je veux dire. Donc, de toute façon, ça sera toujours des uchronies. Le jeu vidéo sera toujours uchronique. On ne représentera jamais l'histoire. Donc, comment voulez-vous, dans un jeu d'aventure où il faut aussi faire rêver les joueurs, et ça, je te rejoins, Alain, la bourde d'Ubisoft qui a relevé Mélenchon, c'est la bourde du marketing, hein, qui a appuyé dessus, on est un jeu historique, c'est la seule bourde d'Ubisoft. Maintenant, honnêtement, faire un jeu qui distord l'histoire, mais vous avez vu ce qu'ont fait les Américains de la mythologie grecque, depuis qu'on fait des Age of Mythology, moi, ça me tordait le bide quand je jouais à ça, parce qu'on a appris la mythologie, nous, en sixième, et qu'effectivement, tu sais que Chypre, c'est pas à côté d'Athènes, quoi. Et quand tu vois qu'il faut faire 10 mètres, ben, c'est très crispant pour nous. Mais en réalité, ben, ils se sont lâchés, le jeu est super bien, il est super fun, c'est un très bon jeu. Des millions de gens y ont joué, il y a plein d'Américains qui croient que Chypre, c'est à côté d'Athènes. Est-ce que c'est vraiment important? Ils croient que de toute façon Paris c'est la capitale de l'Italie. Donc moi je crois vraiment qu'on a le droit de distordre l'histoire, que la connerie d'Ubisoft c'est effectivement une connerie de com et du service marketing essentiellement. Et heureusement qu'on a encore ce droit et qu'il n'y a pas des commissions qui vont nous fliquer parce qu'on a envie de mettre le tricorne de Napoléon à l'envers. Quoi.
Eh bien ce sera le mot de la fin. Effectivement, merci. Merci à tous et bonne continuation de salon.